Laughter!
Bonjour et bienvenue dans le numéro 66 de Jaftamer sur RLP 102.3 FM avec Stéphane depuis le Périgord. Aujourd'hui, nous aurons la seconde partie de l'interview avec Monsieur Méoni de l'association Père pour toujours Genève, dont vous avez pu suivre les premiers échanges dans l'émission 65. Nous aurons également le retour de la chanson de la semaine avec un classique qui clôturera l'émission et nous en profiterons pour vous souhaiter de bonnes vacances. Nous reprendrons vers la rentrée en vous proposant par contre durant l'été quelques rediffusions des meilleurs numéros ou de ceux qui nous paraissent significatifs des émissions précédentes. Mais tout d'abord, quelques actualités en ce mois de juillet 2021, ne bougez pas, c'est juste après ça.
RLP.
Radio libre en Périgord.
Alors, en ces temps de vacances, nous allons parler d'un article trouvé sur Internet, écrit par Maître Catherine Lame sur le site maprocédure.fr qui s'intitule « Ai-je le droit de connaître le lieu de vacances de mes enfants ?» C'est une question importante, nous savons que dans beaucoup de familles recomposées, en résidence alternée ou alors en droit de garde classique, l'ambiance n'est pas toujours optimale et nous avons régulièrement des témoignages de gens qui se voient dénier leurs droits durant les passages de bras, après les passages de bras et qui ne savent pas du tout ce que donnent leurs enfants. Et bien la réponse est oui, absolument oui, pour une raison qui est simple, les enfants cessent-ils d'être communs durant les droits de visite et d'hébergement d'un parent ? Est-ce qu'on cesse d'être mère ou d'être père lorsque les enfants sont avec l'autre parent ? Eh bien non, nous ne cessons pas d'être papa, nous ne cessons pas d'être maman lorsque l'enfant est avec l'autre parent. Il y a d'ailleurs une jurisprudence qui vient de la 24e chambre de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2002 indiquant qu'il convenait de faire droit à la demande du parent qui souhaitait légitimement être informé du lieu de vacances des enfants. Et il a été enjoint à chaque partie de faire connaître à l'autre, 15 jours à l'avance, l'adresse de vacances des enfants. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur maprocédure.fr. Nous avons contacté Maître Catherine Lame plusieurs fois par téléphone. Elle est très occupée. Elle n'a pas pu nous consacrer une interview, mais cet article et cette jurisprudence nous semblent essentiels, surtout en cette période estivale.
RLP.
Radio libre en Périgord.
Toujours dans les actualités, un fait divers qui nous a été transmis par Pierre Durand de Dijon, qui tient une permanence là-bas avec un certain nombre de dossiers, comme nous l'avons déjà vu dans les émissions précédentes, et qui nous parle d'un juge aux affaires familiales. Le juge Olivier B., qui visiblement était reconnu pour casser du père et qui proposait sa fille de 12 ans sur des sites libertins. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature vient de le révoquer. Le juge en question dit que bon, il s'était un peu égaré, qu'il ne s'est rien passé, qu'il ne s'était jamais rien passé. Mais bon, si vous voulez, avoir un juge aux affaires familiales qui propose ses enfants de 12 ans dans des clubs échangistes, c'est comme avoir un prêtre qui est censé défendre la Bible et qui contredit ses valeurs, c'est très choquant. C'est extrêmement choquant et ce fait divers nous a tout de même interpellés comme quoi il y a de tout partout et nous ne comprenons pas pourquoi ce juge a eu ce comportement, surtout qu'il était visiblement, dans toute la juridiction, connu pour matraquer et casser du papa.
RLP.
Radio libre en Périgord.
Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de divorces en Suisse ?
Alors non. Enfin oui, il y en a. Si vous allez sur le site de l'OFS, l'Office fédéral des statistiques, l'équivalent de l'INSEE, si je me souviens bien, en 2010, le taux de divorce était d'environ, il se rapprochait des 50% en croissance. Et puis en 2011, les informations sont vérifiables sur le site de l'OFS, le pourcentage redescendait un petit peu, mais ils ont utilisé un mode de calcul qui était avantageux pour eux pour ne pas faire apparaître ce taux plus élevé. Alors ils ne le présentaient pas évidemment comme ça, mais ils reconnaissaient qu'ils avaient employé un autre moyen pour obtenir le taux. Alors c'est un petit peu comme le chômage, vous changez les règles de calcul des catégories, ainsi de suite, et puis vous faites monter ou vous faites baisser les taux de chômage un petit peu à votre guise pour voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Je crois qu'il y a deux façons d'obtenir des statistiques sur le divorce. Il y a déjà auprès des tribunaux, et puis ensuite il y a auprès des états civils, voilà, parce que tout n'est pas nécessairement enregistré après coup. Selon vous faites l'un ou l'autre, vous aurez une proportion qui sera différente. Et je crois qu'il y a des petits jeux de passe-passe comme ça qui sont faits, mais en Suisse, les taux de divorce sont assez élevés, ils ont tendance à augmenter, et d'une manière générale, c'est la tendance longue. Alors après, il y a des variations, non pas saisonnières, mais d'une année ou deux, le Covid peut avoir une influence, je ne sais pas. Mais d'une manière générale, les taux de divorce augmentent. Oui. Et le taux de divorce conflictuel a tendance à augmenter également. On voit en parallèle quand même des initiatives qui sont, après avoir évoqué tous ces chiffres qui sont un petit peu douloureux, on voit poindre des initiatives au niveau de la médiation, qui est un sujet vraiment d'avenir. Alors il y a d'une part les institutions qui tentent de s'inspirer de modèles comme le modèle de Cochem, et vous avez dans certains cantons des initiatives cantonales qui cherchent à valoriser des modèles de médiation, de conciliation. Alors ça balbutie sur le canton de Bâle, c'est déjà en place depuis plusieurs années. Le canton du Valais est en train de mettre en place ça, et le canton de Genève, puisque c'est celui dans lequel on est basé, a fait part de son intention de mettre en place un début de protocole de Cochem. Alors plusieurs associations, il y a beaucoup d'organisations plus ou moins étatiques et autres qui travaillent là-dessus. Donc on a espoir de voir, malheureusement très lentement, mais évoluer la situation d'une manière favorable sous l'égide d'une prise de conscience.
Je veux dire, il est possible de dire que la recomposition familiale fait partie de la société suisse, il me semble, oui. Votre réponse. Par contre, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu le protocole de Cochem pour ceux qui nous écoutent?
Alors, il y a une région d'Allemagne qui a mis en place depuis de nombreuses années, alors c'est dans la campagne, donc c'est pas un exemple d'une très grande ville. Les juges ont pris l'initiative de systématiquement recevoir d'une manière de discussion les deux parents. Et puis ils refusent par principe le démarrage d'une procédure qui soit en contentieux. Voilà. Vous avez noté, je sais pas comment c'est en France, mais il y a la partie défendresse, ainsi de suite. Inconsciemment, tous les termes qui sont employés en juridique font état d'une agression. Et puis d'une défense.
Oui, il y a attaque-défense, donc il y a lutte avec des intervenants qui mettent de l'huile sur le feu, qui vendent des procédures, des intérêts financiers, des gens qui s'étrient pour les enfants et pour l'argent, et beaucoup de monde qui se greffe autour et qui gagne de l'argent sur ça.
Exactement.
C'est pareil chez vous.
Et en plus, comme tout ceci est très lent, non seulement ça coûte cher, mais ça dure très longtemps, puis ça fait souffrir beaucoup.
Puis les enfants grandissent.
Et les enfants souffrent de voir leurs parents se désunir de cette façon-là. Et si on pouvait résorber les problèmes d'une manière plus apaisée.
Mais donc Cochem, là, qu'est-ce qu'il a dit?
Alors Cochem, oui, C-O-H-E-M, c'est un protocole, un fonctionnement que se sont imposés ces juges dans le cadre de la liberté qui était la leur dans le fonctionnement en Allemagne. Et donc ils reçoivent les parents et puis ils expliquent, ils se font médiateurs si vous voulez en fait. Ils n'attendent pas de recevoir une demande écrite de l'avocat d'un des deux parents qui va déclencher l'hostilité. Et ils se font pas l'arbitre dès le départ des différents coups de fond de cour qui vont être faits avec des accusations multiples. C'est que dès le départ, ils s'adressent aux deux parents et ils leur disent bah, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment on peut concilier les choses? Et avec leur autorité, il s'impose. Et si jamais il y a une fin de non-recevoir de l'un des parents de cette tentative de médiation, eh bien ça va, ils le savent, les deux parties, les deux parents, ils le savent qu'à ce moment-là, ça va se retourner contre eux, parce que ils pourront pas se cacher derrière des documents dans un langage élaboré pour masquer des intentions hostiles. Donc ça contribue à apaiser les tensions, à trouver des solutions dans la solution avec contentieux, on n'en trouve pas. Ça permet d'écourter les procédures, de les rendre moins coûteuses également, et les avocats doivent jouer le jeu. Donc ça, c'est une initiative qui est partie de l'institution judiciaire. On voit également d'autres acteurs. Alors, ceci est minoritaire encore en termes d'évolution. Je vous l'ai dit, je vous ai nommé quelques cantons. Mmh. Il y a 26 cantons. Je n'ai pas connaissance que tous les cantons fassent ça encore aujourd'hui. Et puis, pour certains, ce sont des vœux de se diriger vers cette méthode. Mais ma foi, c'est quand même plein d'espoir. Et puis, vous avez également des avocats. Je ne sais pas si vous connaissez le droit collaboratif. Alors, c'est un droit qui nous vient, une pratique du droit qui nous vient des États-Unis, qui en Suisse a été importée il y a 15-20 ans. C'est de la médiation, mais qui va un petit peu plus loin que la médiation classique.
Vous êtes formidable. Laura, il y a tant d'hommes que je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit, je ne te dirai pas. Oui, Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. J'ai poussé comme on respire, sans abri ni foi ni loi. Ce qui m'a fait vivre était en moi. Des caresses et des sourires, j'ai souvent passé mon tour. Je n'ai jamais appris à donner tant d'amour.
Les avocats en droit collaboratif sont des avocats qui sont sensibilisés à la nécessité, dans l'intérêt des enfants et des parents, de procéder différemment, d'arrêter cette escalade des accusations et ces procédures qui durent très longtemps, qui sont coûteuses en temps, en souffrance et en argent. Donc ce sont des avocats, à mon sens, qui sont vertueux, et qui se sont lassés de cet esprit de bagarre. Alors ils ont suivi une formation, ils ne travaillent qu'entre eux, ils ont suivi une formation en droit collaboratif, et cette formation ils l'ont payée de leur denier, et ils l'ont fait pendant un temps qu'ils n'ont pas facturé à des clients, parce que pendant ce temps ils étudiaient. Et voici comment ça fonctionne. Vous imaginez un couple qui se sépare, ils ont des enfants. Chacun des deux parents, le père et la mère, vont aller voir un avocat ou une avocate en droit collaboratif. Chacun donc a son avocat. Le premier rendez-vous, il y a en général 8 rendez-vous, c'est protocolé un petit peu comme ça, ça peut être moins, ça peut être plus, mais bon, ils ont une méthode. Et cette méthode a pour but de favoriser l'accord. Donc on ne demandera pas à un juge de trancher sur des décisions à cause d'une présentation de désaccord entre les deux parents. On demandera au juge d'entériner, de valider une convention d'accord. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme une procédure simplifiée, mais qui va être menée par des avocats qui sont formés pour en favoriser le succès. Alors qu'au départ, il y a une prise de conscience des deux parents de la possibilité de désaccord sur certains points. Donc, ce sont des avocats médiateurs.
Et, c'est une pratique qui est répandue en Suisse, là,
oui,
chez vous ?
Pardon ?
C'est une pratique qui est répandue.
En Suisse romande, c'est-à-dire la partie francophone de la Suisse, oui. La dernière fois que j'avais regardé, il y a un an, sur leur site internet ou sur leur groupe, leur page Facebook, je crois qu'il y avait entre 20 et 30 avocats. Mais par contre, la première fois que j'avais regardé, c'était il y a peut-être 3 ans, ils étaient qu'une quinzaine. Donc ça semble progresser assez vite. Et l'utilité, c'est de construire un accord qui va être présenté au juge, il va le valider, moi je pense que notre association cherche à faire une promotion de ce mode de résolution de conflits. Pourquoi ? Parce que en parlant autour de nous, il y a très peu de personnes qui connaissent cette façon de régler les conflits.
Alors ça c'est intéressant.
Et il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes, si vous voulez, qui se dirigent vers ces avocats, mmh. C'est leur intérêt, ceux de leurs enfants, à la fois financier, en temps, en stress, en souffrance, tout est réduit.
Ouais, c'est ce que nous appelons ici la déjudiciarisation, en fait. C'est-à-dire qu'on soit en conflit ou non, on essaie de parvenir à un accord, on réalise un contrat avant d'aller au tribunal, on arrive devant le juge et on dit on s'est déjà entendu, vous signez là pour qu'il rentre en activité, et puis on élimine tous les crépages de chignons durant l'audience. Effectivement, ça coûte moins cher.
On prend un exemple, si vous voulez, pour que notre auditoire puisse comprendre. Prenez l'exemple d'un couple qui serait d'accord pour faire une garde alternée, mais chacun des deux y voit un obstacle. Mm-hmm. Imaginez qu'ils présentent tout ça au juge, le juge il acceptera pas, il dit bon, ils s'entendent pas, on va pas faire une garde alternée. Imaginez que la maman, elle jouisse d'une situation qui lui permette d'assez facilement s'occuper des enfants compte tenu de ses horaires de travail, si elle a un temps partiel ou si elle a des horaires assez flexibles. Imaginez que le papa, il a une vie d'entreprise avec des obligations de voyage de temps en temps. Mais il a vraiment, il est apte et il a le temps et il souhaite le faire. Mais il y a des moments spécifiques, sur 15, 2 ou 3 jours par mois, où il ne pourrait pas, sur son temps défini par avance, s'occuper des enfants. Imaginez que la maman, ce soit une ancienne championne de natation, et puis qu'elle souhaite vraiment que ses enfants continuent la natation. Mais ça impose d'y aller 2 fois par semaine, y compris sur le temps du papa, s'il avait la garde alternée. Imaginez que le papa puisse pas nécessairement sur ses horaires. On pourrait imaginer un cas de figure où le papa dise, écoutez, même sur mon temps, quand je ne pourrai pas, je ne m'opposerai jamais à ce que la maman amène les enfants à la piscine pour pratiquer la natation.
C'est et là, on met en place une équipe de médiateurs en amont de la procédure. Et on essaie d'établir un document où on gère tous ces cas et on essaie d'arriver à un accord avec des professionnels de la conciliation, des psychologues et des juristes, pour dire, voilà, on va faire un accord entre nous plutôt que d'aller se battre à la batte de baseball devant des gens qui vont nous accorder. Alors, en France, c'est en moyenne 17 minutes une audience. Je suppose que chez vous, ça doit être à peu près pareil.
Non, c'est un peu plus long.
C'est un peu plus long.
J'ai pas fait de statistiques, j'ai regardé. Pour moi, c'était plus long.
D'accord, ok. Non, parce qu'en France, on est à 6-7 mois d'attente pour une audience et on est à 17 minutes en moyenne.
Et ça, c'est pire que chez nous.
Oui, mais c'est ça ce que je dis, c'est quand ça se passe bien, si vous voulez. Vous rajoutez, il faut parler anglais, vous rajoutez une circonscription, une juridiction qui est très surchargée comme Bobigny et autres, et vous arrivez à parfois 2-3 ans pour avoir une audience. Quand les enfants ont 4-5 ans, c'est un drame. Et puis 10-15 minutes, quand il faut évaluer 20 ans d'histoire de vie, regardez tout ce que vous venez d'évoquer, c'est impossible, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment un intérêt à se passer de l'institution.
Oui, et les juges, finalement, d'eux-mêmes, devraient souhaiter que ça se passe comme ça. Évidemment,
sûr,
ça les rend un peu dispensables dans certains cas de figure, mais ma foi, publiquement, ils s'expriment en disant que c'est difficile pour eux de voir toutes ces doléances.
En même temps, ils sont surchargés, c'est pas leur travail. Je veux dire, un tribunal, c'est quand on fait quelque chose de mal, ça coûte extrêmement cher.
Le budget de la justice et de la police à Genève, pour le canton, ça représente 20% des impôts.
Alors, il y a une réflexion qui émerge en France qui dit qu'un tribunal, c'est qu'on a fait quelque chose de mal, en fait. C'est qu'on va se faire punir, parce qu'il faut trancher. Donc, effectivement, une séparation qui aujourd'hui fait partie de la vie de chacun d'entre nous n'est pas une situation où on a besoin d'avoir quelqu'un qui va établir des sanctions, vous voyez, donc pourquoi le tribunal
On a tendance à penser, chez Père pour toujours Genève, que la solution en termes d'évolution souhaitable des institutions viendrait d'une double modification de comportement, si vous voulez. Sur un aspect, il faudrait que les juges soient plus coulants et rendent possible une médiation, qui soit plus proche des gens qui vont être jugés, et qui force en quelque sorte un petit peu la conciliation, qui s'implique d'une manière à éviter cette lourdeur qui fait des guéguerres qui durent trop longtemps. Et d'un autre côté, on aimerait qu'ils sanctionnent un petit peu plus les délits et qui sont punissables, mais qui sont jamais poursuivis. Par exemple, les enlèvements d'enfants. On aimerait un petit peu plus de rigueur avec ça. On aimerait
C'est une question que je vais vous poser effectivement après.
Également sanctionné.
Ouais.
Que les fausses accusations le soient également. Parce que là, on sent réellement une impunité terrible au bénéfice des maires qui se rendent responsables de ce genre de choses. Même quand c'est prouvé, elles ne sont pas inquiétées. Alors ça fait quand même une sorte d'encouragement, si vous voulez.
C'est la question que je voulais vous poser, effectivement, vous venez d'y répondre. Mais c'était la question, est-ce que effectivement.
C'est qu'on doit vivre un peu les mêmes choses dans nos deux pays.
Mais je regarde. Après, en Europe du Nord, c'est différent. En Europe du Nord, on vous explique carrément que si vous entendez pas que vous battez trop, on vous pique vos enfants.
Laura, le temps passé me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne. tant de place pour toi. Oh, oh, oh Laura, petit rien du tout, mais tant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. J'ai des pensées, tant de force pour des empires en papier. Et des rêves déjà presque oubliés. Mais que le diable les emporte, tout me semble dérisoire. Évaporé dans le bleu de ton regard.
Alors, je vais élargir un petit peu la situation et la discussion. J'ai bien compris que l'égalité homme-femme, dans le contexte familial en Suisse, était encore un challenge, au moins autant que chez nous, si ce n'est pas plus. Je voudrais savoir si vous avez également un problème de placement abusif et de services sociaux qui interviennent dans les cas de conflit parental.
Oui, oui, c'est le cas. Et il y a un groupe Facebook, une page Facebook qui est dédiée à ça, qui s'appelle « Touche pas mon enfant CH ». CH comme symbole de l'autocollant à l'arrière de nos voitures, ah, Confédération Helvétique, c'est comme pour le F de France. Et alors eux, ils sont spécialisés sur ce domaine-là, ils pourraient en parler mieux que moi. Et là, on tombe effectivement sur des cas de figure où les services sociaux, ils ont un rôle tout puissant. Les statistiques sont assez opaques. Et d'après les conseillers d'État ou la responsable du TPAE, qui est le tribunal en charge de ce genre de choses à Genève, il n'y aurait qu'un nombre de cas de placement par an qui serait autour de 40 ou 50 personnes pour une population d'un demi-million d'habitants à Genève. Donc eux, ils ont tendance à minorer, à considérer que c'est finalement anecdotique. Mais il y a beaucoup de bruit qui est lié à ces situations où les parents sont inquiétés de voir leurs enfants à cause de fausses accusations ou quelquefois les services sociaux ne vont pas se rendre dans les lieux où ils pourraient réellement savoir quelle est la situation, ils jugent tout sur papier à distance. Et vous avez des services sociaux, en fait, où ce sont principalement des jeunes femmes, elles sont jeunes, elles n'ont même pas d'enfants elles-mêmes, elles jugent tout sur dossier, et puis ça peut être difficile également. Et puis il faut se mettre également à leur place. Quand les deux parents sont déficients, il faut qu'il y ait des placements pour protéger les enfants. Et c'est difficile.
Oui, sauf qu'en France, ça a dégénéré en business, si vous voulez. On a plein de cas où il y a quand même des intérêts financiers. Les départements ou les régions payent énormément d'argent. Un enfant placé, ça rapporte entre 200 et 400 euros par jour. Puis il y a des structures avec des bénévoles qui brassent des millions à aller chercher les enfants et puis à les mettre dans des endroits où ils sont parfois moins bien.
C'est le côté pernicieux de toutes ces affaires de justice, c'est qu'il y a d'une part des idéologies, alors on en connaît une, c'est l'idéalisation de la maternité, qui relègue le père à un second rôle, et le prive de droits, qui sont pourtant écrits dans la loi, et prive l'enfant également de ses droits de voir les deux parents, même après la séparation.
Oui, alors que tous les spécialistes disent qu'il est bon pour l'enfant que les deux parents s'investissent en bas d'âge. Je veux dire, là-dessus, j'ai interrogé beaucoup d'experts, on est tous d'accord là-dessus.
Ça fait déjà très longtemps que Linda Nielsen a fait ses méta-études en recoupant différentes études dans plusieurs pays du monde et a déterminé que, statistiquement, les enfants bénéficiant d'une résidence alternée vivaient mieux leur épanouissement psychique, leurs résultats scolaires, l'absence de troubles de santé, que les enfants qui, séparés, eux, ne bénéficiaient pas de la garde alternée.
Oui, on le trouve dans nos statistiques aussi, nous, tout à fait. On le trouve dans nos statistiques à nous. On voit que les enfants qui sont en résidence alternée ont de bien meilleurs résultats à l'école, se comportent mieux, ont moins d'hospitalisation durant l'adolescence que ceux des familles monoparentales, en fait. Alors, en conclusion, parce qu'il va falloir conclure, est-ce qu'il y a des points que nous n'avons pas abordés sur les problématiques qui vont être différentes en Suisse par rapport à la France?
Je pense que ce sont les mêmes problématiques, qu'il y a un esprit plus conservateur peut-être en Suisse sur le frein de donner des droits au papa. Il y a cette façon de privilégier et d'avantager la mère.
Et pourtant, chez vous, si le peuple le veut, il est plus facile pour vous d'obtenir une évolution du droit que chez nous.
Alors, c'est une très bonne question. Alors, le congé paternité que vous avez depuis quelques années en France, je ne sais pas depuis quand. Depuis quand ?
Il vient de passer à 28 jours, il y a une semaine, deux semaines, là, ouais. Par Adrien Taquet.
Ça fait quand même plusieurs années qu'il existe, n'est-ce pas, en
oui,
France ?
Oui, tout à fait.
Vous savez depuis quand il existe, en Suisse ?
Non.
Depuis le 1er janvier 2021.
D'accord, c'est tout récent, effectivement, vous partez de plus loin que nous.
Et ça s'est justement fait par une initiative.
D'accord.
Alors, le projet initial, c'était d'accorder 28 jours, mais il y avait suffisamment d'opposition, et le comité d'initiative a réduit sa prétention pour la ramener à 10 jours, pour augmenter les chances que ce soit accepté.
Oui, mais le jour où vous voulez faire rentrer dans la loi, par exemple, le délit d'entrave à autorité parentale, ou que vous voulez instaurer l'égalité homme-femme dans l'institution des services sociaux de la justice familiale, vous pouvez ouais. démarrer une votation.
Oui, c'est possible. Alors, dans certains cas, les votations sont possibles. Il y a un effet pervers aux votations. Si vous lancez trop tôt une initiative, et puis que les gens votent, et puis qu'elle est rejetée, ça va l'enterrer pour un grand nombre d'années.
Oui, il va falloir attendre longtemps avant de recommencer.
Et il faut attendre longtemps. Oui, alors souvent, le dilemme, c'est d'attendre le bon moment pour éviter un échec qui va finalement condamner pour un trop grand nombre d'années. Donc c'est pas parce que le référendum populaire ou l'initiative populaire sont possibles que c'est aussi simple et aussi binaire.
Donc, oui, qu'il faut en abuser, je comprends, tout ouais. à fait. D'accord, et, très bien.
Et dans certains cas, les parlementaires à Berne peuvent lancer eux-mêmes des projets. Il y a par exemple je ne me souviens plus de son nom, un homme politique du canton du Valais, il y a je crois 3 ou 4 ans, il a interpellé le Parlement pour travailler sur un projet de loi pour signifier qu'il y avait un problème avec les non-représentations d'enfants. À ce jour, ça n'a pas abouti.
D'accord, donc chez vous aussi, les NRE ne sont ouais. pas sanctionnés. Dire, elles finissent sur placard dans la pratique, elles sont quasiment jamais. D'accord.
Dans la pratique, elles ne le sont pas.
D'accord. Bon. Très bien. Mais c'était Vincent Méoni de l'association Père pour Toujours Genève, association suisse. Merci de vos explications.
Merci Stéphane.
Merci.
À bientôt.
Et puis à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Love for me.